France Inter, le 18-20.
En d'autres temps et en parlant, vous vous en souvenez, de l'éducation nationale, un ministre avait parlé de dégraisser le mammouth. On a réentendu cette phrase ce week-end après les annonces du gouvernement sur les grandes lignes de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement, lui, préfère dire qu'il faut réfléchir sans totem ni tabou à la transformation de l'action publique. Fermez les guillemets. Alors c'est vrai, y a-t-il des totems et des tabous à faire tomber? Est-ce qu'on est en train de le faire en ce moment quand on parle de plan de départ volontaire, de recours accru aux contractuels, de rémunération au mérite, d'une meilleure évaluation des fonctionnaires? Est-ce qu'on avance en terrain miné, voire mouvant? Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit rénover les statuts? Les consultations, elles commencent à peine, les débats aussi, les grincements de dents également. Alors, à vous de nous dire ce que vous en pensez. Faut-il mettre un coup de pied dans la fourmilière de la fonction publique? Faut-il craindre ce chiffre de 120 000 suppressions de postes à la fin du quinquennat? Vos appels font l'émission et c'est parti.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Bonsoir Pierre, c'est vous le premier, soyez le bienvenu.
Bien, bonsoir à tous, merci d'exister. Voilà, moi j'ai plus. Vous venez de parler, donc je vais peut-être rajouter quelque chose si vous me laissez la parole.
Allez-y.
Mais voilà, j'ai plusieurs interrogations. J'ai été dans le privé, j'étais payé au mérite, c'était au mètre cube, c'était facile. Puis j'ai été enseignant dans la maternelle et au primaire. Et parfois, il m'est arrivé d'être inspecté par des inspecteurs qui n'avaient simplement comme formation que le niveau d'études, ils avaient réussi le concours, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Donc c'était eux qui étaient censés calculer mon mérite. Quand je vais à la poste, à Pôle emploi ou à la Sécu, n'importe où, qui va avoir le mérite le plus important? Celui qui va passer, l'agent qui va passer un peu trop de temps avec quelqu'un qui est âgé, qui n'entend pas bien, etc. Ou celui qui va faire 6 par heure? D'autre part, il y a longtemps que nos politiques... Oui, il faudrait donner un coup de pied dans la fourmilière politique, en effet. Il y a longtemps qu'ils nous racontent des mensonges. C'est pour ça que les fake news marchent. On a changé les écoles normales, qui étaient un ascenseur social, dans lequel on pouvait arriver et accéder en fin de troisième avec le MEPC, et on pouvait devenir Marcel Pagnol. Maintenant, il faut des parents qui payent Bac plus 5 à leurs enfants pour un métier mal payé, dévalorisé, déconsidéré. Voilà, écoutez, j'ai tant de choses à dire, mais je préfère laisser la parole aux autres.
Bah oui, c'est bien que tout le monde ait le temps de s'exprimer. Pierre, merci en tout cas pour ce démarrage du téléphone sonne, parce que la question du mérite, on y reviendra d'ailleurs tout de suite après vous. Elle fait beaucoup réagir les auditeurs depuis ce matin et ce soir. Pour vous répondre, autour de la table, au téléphone sonne ce soir, Céline Verzelletti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire confédérale de la CGT. Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur associé à l'ESCP. Il va y avoir une autre question dans le même sens dans un instant. Le questionnement de Pierre autour du mérite, comment ça va se passer? Qui va décider? Mérite de quoi? Mérite de qui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a compris, Céline Verzelletti, ou pas?
Écoutez, c'est une très bonne question que vous posez, parce que d'une part, les annonces qui ont été faites l'ont été assez brutalement et sans aucune concertation ni discussion avec les organisations syndicales. C'est d'ailleurs un des premiers problèmes. Ensuite, dans la fonction publique, il y a déjà des primes un petit peu, hein, selon la fonction, selon certains objectifs. On est déjà évalué dans la fonction publique, hein, où on a des entretiens avec la hiérarchie, il y a des objectifs qui sont fixés et on doit essayer de les atteindre. Alors après, la question, elle est à savoir de quel objectif on parle, justement. Est-ce qu'il s'agit d'objectifs collectifs ou individuels? Est-ce qu'on prend en compte les moyens qui sont mis à disposition des agents, justement, pour atteindre ces objectifs? Et en termes d'objectifs, on entend quoi? Est-ce qu'on est sur la qualité du service rendu à la population, ou est-ce qu'on serait simplement sur des chiffres du rendement, qui en tout cas pour moi, à mon avis, il ne doit pas être question de rendement, mais bien de services rendus à la population et des moyens qu'on peut mettre en œuvre justement pour rendre le meilleur service qui soit, justement, et pour répondre aux besoins sociaux aussi.
Jean-Marc Daniel, je vais vous laisser le loisir de répondre. Je voudrais qu'on écoute Gilbert, qui est exactement sur le même thème. Gilbert.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, moi j'ai été aussi enseignant comme l'auditeur d'avant. J'ai été licencié pour insuffisance professionnelle, je travaillais au ministère de l'Agriculture, et je précise, sans même que les résultats aux examens des élèves que je présentais n'aient été tenus en compte, il n'a été tenu compte uniquement d'avis d'inspecteurs, dont on se demande si on doit essentiellement leur plaire à eux et non plaire et non convenir aux objectifs qui sont donc assignés aux enseignants techniques. J'ai été licencié du temps de M. Bruno Le Maire, sans, en son nom, je pense, sans qu'il en sache quelque chose. M. Le Foll avait promis de regarder les choses, j'attends toujours de réponses, et j'engage M. Travers à aller regarder un petit peu mon dossier, voir qu'il n'y a dedans que des avis, aucun bilan concret, posé sur des faits clairs, concis, entiers et autres. J'ai eu la malchance de déplaire à une série de hiérarques dont on ne s'occupe absolument pas, eux, de ce qu'ils font par rapport aux attentes de leur mission.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Gilbert. Jean-Marc Daniel, c'est vrai que ce n'est pas très clair, en fait. Qui, dans ces cas-là, a qualité pour juger le travail d'un autre, en fait? Comment ça va se passer?
On voit bien que les fonctionnaires sont en position, d'ailleurs, d'après l'expression traditionnelle, statutaire et hiérarchique. Mmh. Et donc, la grande question, à mon avis, il faut l'aborder un peu sur cet aspect-là, c'est effectivement la notion de service rendu, à quel moment le contribuable qui paie, ou les parents d'élèves dans le cas de l'éducation, puisque c'est des exemples. À quel moment est-ce qu'ils sont concernés, est-ce qu'ils sont impliqués, et est-ce que l'organisation actuelle, notamment l'organisation publique, permet de véritablement évaluer ce qui se passe?
Est-ce que c'est le cas?
Et je pense que ce n'est pas le cas. Et on voit bien que dans les pays autour de nous, regardez au Royaume-Uni où on a entrepris de privatiser l'enseignement au travers des free schools, ce sont les parents d'élèves maintenant qui demandent qu'on généralise cette procédure pour pouvoir être davantage impliqués dans la vie quotidienne des écoles. Donc je crois qu'il y a un élément essentiel qui est effectivement passé d'une vision assez hiérarchique et très centralisée, une vision beaucoup plus décentralisée, dans laquelle des mécanismes de mise en concurrence permettraient effectivement de davantage apprécier la réalité du service rendu. La deuxième remarque que je ferai, c'est que on a du mal à cerner effectivement ce que c'est qu'un fonctionnaire. C'est-à-dire que le premier intervenant a parlé de la sécurité sociale.
Et de la poste.
Oui, et de la poste. Les agents de la sécurité sociale ne sont pas fonctionnaires. Ils sont rattachés à une convention collective qui est gérée par un organisme qui s'appelle l'UCANS. Et donc, il y a un peu des hasards de l'histoire qui font que certains sont fonctionnaires, d'autres ne sont pas fonctionnaires. Et je pense que on aurait besoin, là aussi, de se poser la question, comme se sont posés les Suédois, comme se sont posés les Suisses, de savoir ce qui relève véritablement d'un statut relativement protecteur et très organisé, et ce qui obéit à une logique de contractualisation. C'est-à-dire, quand le gouvernement dit on va davantage embaucher de contractuels, c'est-à-dire des gens, effectivement, qui vont avoir une situation proche des agents du secteur privé. La dernière remarque que je ferai, c'est que le nombre de fonctionnaires augmente régulièrement par rapport à la population. C'est pas spectaculaire.
On n'est pas le pays
qui est le plus fonctionnarisé. Hein. Si on prend les 5,4 millions de gens qui ont véritablement le statut de fonctionnaire, ils représentent 8,8% de la population. En 1980, on était à 7%, et depuis, il y a eu une... Et là aussi, la question qui se pose, c'est est-ce que la population reconnaît dans cette évolution un mieux-être? Or, à partir du moment où on a un déficit budgétaire, à partir du moment où on menace l'avenir de la génération future par ce déficit budgétaire, la question qui se pose, c'est est-ce que ce mieux-être, si tant est qu'il existe, n'est pas pris sur le dos des gens de la génération d'après?
Alors, je voudrais revenir quand même un instant sur l'une des remarques du premier auditeur, Pierre, qui parlait, il donnait un exemple très concret, en fait, sur cette histoire de mérite, en parlant de la poste. Effectivement, qui est le meilleur agent, on va mettre des guillemets? Est-ce que c'est celui qui prend du temps avec la petite mamie qui a du mal avec ses comptes, avec son enveloppe, son recommandé, ou etc. Mais du coup, devant lui, il y a une file très longue et ça prend un temps fou avant que tout le monde passe? Ou est-ce que c'est celui qui permettra d'expédier les choses plus vite et auquel cas, ça marchera mieux et il y aura beaucoup de moins de gens qui feront la queue?
Il y a eu énormément de travaux pour essayer effectivement d'évaluer la prestation et la qualité du service public. Alors, la poste, mais... comment on évalue la production et la productivité d'un ambassadeur? Comment est-ce qu'on évalue la production et la productivité d'un juge? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelqu'un qui remplit et qui va dérouler beaucoup de dossiers, ou est-ce que c'est quelqu'un, au contraire, qui évite qu'il y ait trop d'erreurs judiciaires? Et donc, ça existe depuis un moment, puisque maintenant, les lois de finances sont dans un cadre qu'on appelle la loi organique pour les lois de finances, un nouveau cadre juridique dans lequel chaque administration a un certain nombre d'indicateurs, qui sont des indicateurs de référence, qui lui permettent normalement de vérifier, notamment au travers des travaux de la Cour des comptes, si la prestation qui a été réalisée est conforme à la mission de service public.
Oui,
encore une fois, c'est très difficile.
Moi, je pense qu'on s'éloigne quand même un petit peu du sujet. Je suis désolée parce que si on parle que de comptabilité, de coûts, de rentabilité, vous l'avez dit, moi je pense que le service public, ce n'est pas ça, justement. Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on veut évaluer, justement. Et la question, elle est bien là. Est-ce que le service public doit rendre et répondre aux besoins sociaux de la population? Ou est-ce qu'il doit faire du chiffre? Ou je ne sais pas, moi, si on prend l'exemple, alors vous avez pris l'exemple de la Poste, en effet, mais moi, je pense que c'est pas... Enfin, l'intérêt, c'est pas de passer le plus de monde à un guichet. C'est bien de pouvoir accéder aux questions et à la demande des usagers. Si on prend un hôpital comme exemple, c'est peut-être plus simple parce que les gens savent un petit peu ce que c'est un hôpital. Est-ce qu'on demande à une infirmière ou une aide-soignante de soigner le plus de malades de manière le plus rapide et finalement n'importe comment, ou est-ce qu'on attend, lorsqu'on va à l'hôpital, d'être soigné correctement, d'être pris en charge correctement, c'est-à-dire avoir une prise en charge individualisée, puisque chaque personne est différente et doit avoir justement un encadrement important. Dans les maisons de retraite, on a vu d'ailleurs la dernière mobilisation concernant les EHPAD, où justement une des revendications des salariés, c'était bien d'avoir un ratio, voilà, un ou une agente pour un résident.
C'était pas plus d'argent, c'était plus de monde.
Oui, notamment parce que c'était aussi, d'ailleurs, à l'appel de la mobilisation, l'affiche était dignité pour les personnels, mais aussi dignité pour les résidents. Et moi, je pense qu'on ne doit pas opposer les usagers aux fonctionnaires. Alors, je rappelle quand même que dans la fonction publique, il y a 20% de personnes qui travaillent et qui ne sont pas justement fonctionnaires, ce qui est un problème d'ailleurs. Mais je pense que justement, au contraire, il ne faut pas opposer. Je pense que si et plus les fonctionnaires seront dans de bonnes conditions et auront un statut protecteur, mieux, ils rendront un meilleur service. Et je pense qu'on a tous intérêt à ce qu'on ait une fonction publique avec des moyens, avec des agents qui soient dans de bonnes conditions et reconnus en tant que tels, qui puissent justement assurer un bon service. Il me semble qu'une société moderne, c'est avec des services publics qui soient plus développés et mieux développés. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas, par contre. Les services publics sont... il faut en tout cas les faire évoluer, parce qu'en effet, je pense qu'on ne répond pas aux besoins sociaux aujourd'hui de la population, qui sont assez importants et nombreux.
Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver Fabien. Bonsoir Fabien.
Oui, bonsoir. Au sujet de la fonction publique hospitalière, justement, il faut savoir qu'il y a déjà un grand recours aux contractuels, puisque, par exemple, les infirmiers qui sortent de 3 années d'études avec un diplôme d'État, donc ça n'est quand même pas rien, se retrouvent avec un parcours du combattant qui se résume, en gros, en moyenne, au niveau national, à 3 années de contractualisation. Donc là, vous êtes balancé de contrat précaire en contrat précaire, plus précaire même que dans le privé, il faut le savoir. C'est des contrats d'un à 3 mois maximum, hein, souvent, où on vous change de service, on vous change de jour, de nuit, les horaires changent, vous ne pouvez pas anticiper vos congés. Donc ces conditions précaires, évidemment, sont pas du tout enviables. Et au bout de 3 ans à ce régime-là, vous avez droit à une année de stagiarisation. Et seulement après ces 4 années, en moyenne, il peut y avoir pire selon certaines régions, seulement après ces 4 années, vous serez titularisé. Et c'est une sorte de carotte que promettent les cadres de l'hôpital public aujourd'hui aux élèves sortant des écoles fraîchement diplômés d'État. Donc, voilà ce qui est peu enviable quand même dans le sort de certaines catégories de futurs fonctionnaires.
Donc un statut, vous dites, qui est plus précaire. Avant qu'on réponde à votre question, je voudrais qu'on rejoigne Mathilde. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
Vous, c'est l'éducation nationale.
Oui.
Allez-y, on vous écoute.
Bonsoir à tous, je suis jeune enseignante et je voudrais parler du recrutement. Alors je parlais de ce que je connais, c'est-à-dire de l'éducation nationale, on en a déjà pas mal parlé, mais déjà le recrutement des professeurs est de plus en plus compliqué. On a vu certains scandales apparaître avec notamment en lettres les notes, enfin les professeurs recrutés à des notes au concours qui n'étaient pas forcément géniales parce que concrètement il n'y a pas assez de profs. Mais moi je sais que dans mon collège, non seulement les profs de lettres on m'a retrouvé, mais en plus quand il faut les remplacer parce qu'il y a congé maladie ou congé maternité, c'est la croix et la bannière. Et on a des collègues qui sont recrutés au Pôle emploi. Donc on les appelle le vendredi en leur demandant s'ils sont libres, parce qu'ils ont vaguement une licence d'histoire géo. Et puis bah du coup le lundi ils sont profs de français pour remplacer une collègue qui n'est pas là parce qu'elle est en arrêt. Et le dernier dans mon collège, C'était un prof d'SVT qui était doctorant, donc tout à peu près compétent, mais sauf qu'être doctorant, ça ne veut pas dire être prof. Il était vraiment pas assez pédagogue devant les élèves, il avait un accent à couper au couteau, les élèves ne comprenaient pas ce qu'il disait. Et donc, quand on l'a remercié, il a fallu que ce soit les gendarmes qui viennent le chercher dans l'établissement parce qu'il ne voulait pas partir. Voilà. Donc, c'est ce genre de personnes qu'on recrute pour mettre à ça des élèves. Moi, je veux bien qu'on mette plus de contractuels et moins de fonctionnaires, mais à ce moment-là, qu'on les recrute correctement, parce que là, ça me fait peur, quoi.
Et pour aller dans le sens de ce que vous dites, Mathilde, et ce que disait Fabien avant que vous répondiez, Catherine, qui nous envoie ce message depuis les Côtes d'Armor sur franceinter.fr, qui dit « Je suis contractuelle dans un centre hospitalier. Nos salaires ne sont pas indexés pour avoir des augmentations. On doit se battre. Il n'y a pas de primes, beaucoup de CDD, etc. » Jean-Marc Daniel, faut-il revoir si on a plus recours aux contractuels, faut-il aussi revoir la manière dont on va chercher les contractuels, pour quel type de mission et surtout quel statut on leur donne ?
Oui, oui, je pense qu'il faut complètement redéfinir le cadre de la fonction publique. On a parlé de la Poste, mais la Poste n'a pas vocation à rester publique. Dans la plupart des pays, elle est en train de devenir une entreprise privée et elle est en concurrence. Et donc, c'est parce que les nouvelles technologies imposent aussi un mode d'organisation et la fonction publique est en train de découvrir qu'il va falloir qu'elle s'adapte à ces nouvelles technologies. Et l'enseignement, c'est un cas très intéressant, parce que l'enseignement, bon, moi j'appartiens à une génération qui a connu la télévision scolaire, et puis ça a échoué, parce que c'est... Mais les nouvelles technologies peuvent améliorer considérablement la qualité pédagogique et la façon de vivre le rapport aux élèves dans une classe. Mais ça suppose qu'on ne paupérise pas les fonctionnaires de l'éducation nationale. À l'heure actuelle, les places offertes au concours en mathématiques, l'auditrice a parlé de lettres, mais en mathématiques c'est dramatique, c'est-à-dire qu'effectivement... personne, enfin, on n'arrive pas à satisfaire à remplir les concours. Pourquoi ? Parce que tout le monde est supposé être payé de la même façon, alors qu'on voit bien que, comme on manque de professeurs de mathématiques, il faudrait les payer un peu plus cher pour attirer et rendre le métier plus attractif. Et donc, je pense qu'il faut davantage de souplesse pour répondre à un problème où, effectivement, l'organisation de la paupérisation, parce qu'il y a eu une véritable stratégie, à mon avis, qui a consisté à garder le nombre des fonctionnaires tout en les payant de moins en moins bien. Et donc, la conséquence, c'est que, effectivement, on a du mal à trouver des gens à même de remplir les fonctions qui sont réclamées pour à l'occasion de l'organisation des concours.
Mais de quoi on parle quand on parle de contractuels finalement, Céline Verzelletti ? Parce que j'ai l'impression qu'on en parle dans toutes les directions et dans tous les métiers. On était là à l'hôpital, on parle aussi de profs.
Oui, bien sûr, il y en a à l'éducation nationale, il y en a quasi dans tous les ministères, justement.
17% des effectifs, grosso modo ?
Un peu plus, même. Hein. Alors après, il y a une petite bataille des chiffres, mais là n'est pas l'important.
Ça veut dire combien, pardon, pour dire les choses clairement, ça veut dire quoi ?
Il y a 20% à peu près, on l'évalue à 20%.
Encore une fois, la population des fonctionnaires, c'est 5 400 000 personnes.
Voilà, donc ça fait à peu près 1 million de contractuels.
Donc c'est énorme, et nous on souhaite justement que ces personnes-là soient titularisées, parce que comme ont pu le dire différentes personnes, je pense quand même que pour justement rendre... Enfin, on a un devoir de neutralité, d'égalité, et je pense qu'il vaut mieux qu'on soit en situation non précaire, d'ailleurs, parce que je ne vois pas ce que la précarité pourrait apporter, justement, au service public. Je pense qu'on doit pouvoir avoir un déroulé de carrière et pouvoir assurer un service, quels que soient, d'ailleurs, les pouvoirs politiques ou quel que soit l'employeur. On doit pouvoir le faire de la même manière. Et de ce fait-là, je pense que être titulaire et être sous statut protecteur, c'est important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois et systématiquement, il faut vraiment lier le statut et les conditions du fonctionnaire au service qu'on doit rendre et penser à l'usager et aux citoyens. Je pense que c'est vraiment très important. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement l'oublie. Parce que je pense que j'ai l'impression, en tout cas, que lui, il souhaite finalement que les services publics fonctionnent un petit peu comme une entreprise privée. Alors qu'on est sur de l'intérêt général. Il faut vraiment qu'il y ait, et il ne faut pas qu'on perde de vue cette notion d'intérêt général et cette notion de besoins sociaux. D'autant plus qu'on le voit bien quand même, il y a de plus en plus de misère, de pauvreté, de précarité en France. Et on a besoin de plus en plus justement, et les services publics servent aussi à répondre à tous ces besoins qui vont être de plus en plus importants, malheureusement. Parce que, justement, il y a quand même une politique d'austérité qui est menée et qui a des conséquences sur nos vies et aussi, bien évidemment, sur les conditions de travail de tous les professionnels. Donc je pense que il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que là, détruire les... parce que c'est un petit peu ce qui est préconisé, c'est finalement on va privatiser beaucoup de missions. Alors pourquoi ? Il faut qu'on m'explique pourquoi. Quel intérêt ? Qu'est-ce que ça va apporter demain aux personnes ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas plus besoin de plus d'écoles, plus de crèches, plus d'hôpitaux, plus de recherches ? Est-ce que vous souhaitez que vos enfants soient dans des classes de 40, 30, 40 c'est élèves ? Enfin, non, je ne pense pas. Est-ce je pense que c'est important, l'éducation, la recherche, c'est le futur aussi, c'est l'avenir. Donc je pense qu'il faut qu'on parie sur l'avenir et
allez-y,
le futur.
Allez-y, Jean-Marc Daniel.
Il faut vraiment... Il faut vraiment qu'on nous donne les moyens de préparer ce futur et cet avenir.
Dans remarque par rapport à ce qui a été dit, je reprends l'exemple des professeurs de mathématiques. Ouais. L'idée que quelqu'un va être professeur de mathématiques toute sa vie. Alors qu'encore une fois, dans le monde...
Non, il y a les professeurs des écoles. Prenez l'exemple des professeurs des écoles, par exemple.
On manque de professeurs de mathématiques.
Attendez, je pense que vous reviendrez tout à l'heure, Jean-Marc Daniel.
Au lieu de dire, écoutez, on va faire un concours, on va chercher des gens qui ont le niveau, qui ont envie pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans d'être professeur de mathématiques. On est dans une société où les gens ont vocation à changer de métier, dans une société qui est assez souple dans l'évolution de ses carrières.
Mais ça, c'est dit, non, dans la théorie, dans la pratique, c'est pas vrai.
Mais
ça,
si, dans pratique, c'est vrai, puisqu'on les manque de professeurs de mathématiques. Non, si on a besoin de gens,
justement,
autant aller les chercher.
On n'arrive pas à les recruter.
Laissez-moi finir. Deuxièmement, sur l'idée qu'il y a une politique d'austérité, le véritable problème dans ce pays, par rapport aux autres pays qu'on met souvent en avant comme les pays scandinaves, c'est que leurs budgets sont équilibrés. Et donc, qu'il y ait beaucoup de fonctionnaires, c'est que la population reconnaît l'utilité de ces fonctionnaires, puisqu'elle accepte de payer les impôts qui correspondent à ces fonctionnaires. Là, on a un budget qui est en déficit de 80 milliards d'euros. Et donc, il n'y a pas de politique d'austérité.
Il y a des pays où la part...
Il y a une fonction publique qui n'est pas reconnue par la population, puisqu'elle n'accepte pas de payer les impôts qui permettraient de payer l'ensemble des dépenses publiques. Donc, il y a un vrai problème qui est un problème à la fois de souplesse, un problème de qualité et un problème pragmatique. Encore une fois, quand vous n'avez personne pour être professeur de mathématiques, autant demander à quelqu'un passer 3 ans qui a un diplôme d'ingénieur pendant 3 ans d'être professeur de mathématiques.
Je pense qu'il y a certains secteurs professionnels où justement il y a un problème de recrutement. Parlons des personnels pénitentiaires qui étaient en mobilisation ces derniers temps et qui le sont d'ailleurs encore parce qu'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Il y a un gros problème de recrutement, mais eux le disent et ils ont raison d'ailleurs. On demande justement à ce qu'il y ait une requalification de leur catégorie. Les surveillants pénitentiaires, par exemple, sont aujourd'hui recrutés en catégorie C et eux, ils estiment qu'au regard du travail qu'ils fournissent, qu'ils pourraient être recrutés au niveau, par exemple, catégorie B, ce qui permettrait de revaloriser le métier et ces personnels-là. Aujourd'hui, le gouvernement refuse, alors qu'ils ont énormément de problèmes, par exemple, pour les policiers ont
expliquer aux gens qui nous écoutent
la catégorie B depuis 10 ans. Donc voilà, ça fait partie d'exemples qui montrent bien que les professionnels, eux, savent un petit peu ce qu'ils font d'ailleurs et demandent à pouvoir exercer leur métier de meilleure façon, demandent à ce que à être formés, à être mieux formés aussi d'ailleurs pour rendre un meilleur service. Je reviens sur ce service, mais souvent le gouvernement leur répond ou nous répond de manière globale. De toute manière, nous n'avons pas suffisamment d'argent, donc il faut faire avec ce qu'on vous impose, avec des restrictions budgétaires, et systématiquement, on nous renvoie ce problème de coût. Donc, on ne veut absolument pas parler d'investissement, si on peut prendre ce terme-là, quand il s'agit de services publics ou de fonctions publiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas investir, justement, et ça, en effet, alors moi, le mot coût me gêne un petit peu, mais oui, si on doit mettre beaucoup plus d'argent dans les services publics, je pense qu'il faut le faire parce que justement c'est une richesse.
Alors, c'est pas dans cette direction vraisemblement qu'on est en train d'aller.
Et non, c'est là où il y a
d'aller.
Vraiment des désaccords.
Concrètement,
sur ces questions-là.
Les chiffres disent 120 000 à la fin du quinquennat. On parle de quoi exactement ? Encore une fois, on parle de fonctionnaires territoriaux, on parle de fonctionnaires hospitaliers, on parle de fonctionnaires de l'éducation nationale. C'est ça qui est très compliqué, c'est de savoir dans quelle branche on va et donc où est-ce qu'on peut réellement faire des économies d'effectifs, pardon de le dire comme ça.
Non, les 120 000, normalement, c'est la fonction publique d'État. Hein, donc, l'engagement... Et effectivement, on peut se poser la question, puisque le budget qui vient d'être voté prévoit la suppression de 1 600 emplois. Donc, pour arriver aux 120 000 sur 5 ans, il va falloir effectivement, je dirais, accélérer un peu le... L'idée, c'est de faire... encore une fois, il y a 3 secteurs sur lesquels on doit pouvoir faire des économies. Encore une fois, toute la partie administration, je dirais, numérisée, qui a commencé au ministère des Finances. Le ministère des Finances a supprimé pas mal d'emplois et continue à supprimer des emplois. Si on fait le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, il est évident que normalement, on aura besoin de moins de personnel au ministère de l'Économie et des Finances. Mmh. Donc, il y a des gains de productivité qui peuvent être faits par l'utilisation des nouvelles technologies. Le deuxième élément, encore une fois, c'est une partie, ce serait d'engager dans des processus de privatisation. Donc, là, les suppressions d'emplois sont plus des changements de statut. Mais encore une fois, pour en revenir aux gardiens de prison, il ne s'agit pas de revenir sur le statut des gardiens de prison, mais il est envisageable quand même que des gens aient envie dans leur vie de ne pas être toute leur vie gardien
oui,
de prison.
Oui, mais écoutez, on ne dit pas gardien de prison, on dit surveillant de prison.
Oui.
Non, mais bien sûr, mais bien évidemment.
Qu'on ait envie de changer un peu de carrière, de bouger, et donc il y a une certaine souplesse.
À part un surveillant de prison, aujourd'hui, s'il veut, il fait ce métier, s'il veut l'exercer de manière correcte, il ne peut pas. Alors, je ne parle pas, moi, de ceux qui ne voudraient plus, à un moment donné, faire ce métier. Moi, je parle de ceux qui, aujourd'hui, exercent ce métier, comme les infirmières, comme les aides-soignantes, comme les professeurs des écoles, qui souhaitent faire leur métier correctement. Parce que, justement, ils ont le sens des responsabilités. Et aujourd'hui, à ces personnels-là, on leur refuse les moyens qu'ils devraient avoir pour... Alors, moi, je trouve qu'on devrait être fiers. On devrait être fier que des fonctionnaires, justement, demandent et réclament les moyens pour faire correctement leur travail. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression que non. Justement, on montre du doigt ces personnels-là lorsqu'ils manifestent et lorsqu'ils veulent, justement, les moyens pour exercer correctement leur métier. Donc, moi, je pense que c'est quand même... important.
Donc, Jean-Marc Daniel,
il y a des privatisations qui sont envisageables, qui sont d'ailleurs dans le pipe. Encore une fois, l'idée, c'est quand même de faire en sorte que les gens ne soient pas enfermés dans leur métier toute leur vie. C'est-à-dire d'assurer des passerelles pour faire en sorte que les endroits où on fait des gains de productivité, on puisse basculer une partie des personnels vers d'autres formes de métiers. Et puis, la troisième élément, c'est qu'effectivement, il y a des endroits où les missions sont manifestement, enfin, le paiement au mérite, l'idée, c'est quand même de mobiliser davantage les fonctionnaires avec, indépendamment des nouvelles technologies, une efficacité accrue par une remobilisation des fonctionnaires. Ce qui suppose, à mon avis, qu'on abandonne la politique, je maintiens, de paupérisation. C'est-à-dire la politique qui consiste à mal payer les fonctionnaires. Il vaut mieux des fonctionnaires moins nombreux mais mieux payés, ce qui a été fait dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, plutôt que de maintenir, au nom de l'emploi, une flopée de fonctionnaires qui, effectivement, sont de moins en moins motivés.
Émilie, vous attendez depuis une demi-heure, pardon. On vous écoute, Émilie, allez-y.
Oui, bonsoir. Alors moi, je voulais aborder la problématique de la garantie de l'emploi, la sécurité de l'emploi chez les fonctionnaires qui est attaquée, semblerait-il, par le projet de loi. Cette sécurité de l'emploi permet de garantir l'indépendance des fonctionnaires et en cas de possibilité de licenciement, avec tous les guillemets qu'il faut mettre autour de ce terme en ce qui concerne les fonctionnaires, n'y a-t-il pas un risque de pression du politique sur les fonctionnaires? Alors, on va commencer par les hauts fonctionnaires, mais du coup, l'administration qui elle-même remettrait une pression sur les personnes qui exercent auprès des populations.
Ça veut dire un turnover, vous voulez dire, qui serait plus important au changement de majorité, choses comme ça, y compris dans les mairies et autres?
Alors moi je pense carrément, pour revenir à l'esprit de la loi de 1947, c'est pas par hasard si cette loi a été, enfin le statut des fonctionnaires a été instauré après la guerre. On peut penser à tout ce qui s'est passé sur la police, la justice, des pressions politiques qui pourraient amener des dérives. Moi, je suis concernée à l'hôpital. Je suis pas fonctionnaire, hein, mais enfin, pour tout dire, je suis praticien hospitalier. Mm-hmm. Donc, on a fonction publique. On n'a pas un statut de fonctionnaire. Mais disons que tout ce qui s'applique aux fonctionnaires finit par s'appliquer à nous. En tant que praticien, en tant que médecin hospitalier, parfois, on refuse, on s'oppose à la direction parce qu'il y a un vrai danger pour la prise en charge des patients. Donc, j'applique ça, mais je pourrais, à mon avis, on pourrait le retrouver dans la police, dans la justice, à l'école, pourquoi pas. Et moi, j'ai une vraie inquiétude par rapport à ça, sur cette pression. Pour l'instant, on est quelque part, si vous voulez, on est en sécurité, dans le sens où quand on dit non à un directeur, on dit non à un directeur, on a notre éthique et pour l'instant, il ne peut pas nous arriver grand-chose. Alors, on ne dit pas non, c'est pas qu'on ne veut pas travailler, c'est qu'on ne veut pas travailler dans le sens, justement, qui ils veulent nous faire travailler dans un certain sens, de la rentabilité, il faut prendre de plus en plus de patients, il faut les mettre dehors de plus en plus rapidement, et la qualité des soins est très clairement en baisse. Donc voilà, c'est une problématique que moi je vis, mais qui doit se reporter. Et c'est vrai que s'il n'y a plus cette sécurité de l'emploi, on peut avoir une pression de plus en plus importante sur l'ensemble des fonctionnaires, et alors ça va des hauts fonctionnaires jusqu'aux personnes comme nous. Merci. Qui travaillons auprès des usagers.
Merci beaucoup Émilie pour cette remarque. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est un risque réellement ce que dit Émilie?
Alors, trois remarques par rapport à cette idée. D'abord, le statut de la fonction publique date de 47, mais c'est une copie d'un statut qui avait été mis en place par Vichy. Et donc, le vrai premier statut de la fonction publique est né sous Vichy, dans un état d'esprit qui était déjà un état d'esprit corporatiste, un état d'esprit qui était assez symbolique de ce qu'était Vichy. La deuxième remarque, c'est que tous les pays qui ont supprimé le statut de la fonction publique ont préservé effectivement, pour un certain nombre de postes de responsabilité, un statut qui est un statut protecteur. C'est-à-dire en Suède, les ambassadeurs et les juges, les magistrats, puisque il y a l'indépendance du pouvoir judiciaire, et donc il est toujours important de maintenir un statut protecteur pour le pouvoir judiciaire. Le dernier élément, si vous voulez, c'est que tous les pays qui ont là aussi passé, qui sont passés dans des fins de statut avec de droits privés, avec il n'y a pas, enfin la Suède n'est pas un exemple d'un pays devenu, depuis que le statut de la fonction publique a été aboli, un pays devenu totalitaire. C'est un pays largement démocratique.
Il ne s'agit pas de totalitarisme là dans ce
oui, mais enfin, il n'y a pas
de pression.
Il n'y a pas de pression.
C'est une neutralité, je pense. La
Suède est un modèle, est un exemple qui montre bien que effectivement, à partir d'un certain un moment, les fonctions que l'on exerce sont des fonctions qui sont par nature et par essence apolitiques. Et donc, après qu'un directeur d'hôpital dise, écoutez, il faut faire des économies, ça c'est un problème, effectivement, de gestion.
Quand
vous avez un ministre de la Santé qui dit qu'il y a 30% des actes médicaux qui sont inutiles, on voit bien qu'il y a un problème de gestion. Et donc, on demande aux gens de faire un effort, là aussi, encore une fois, pour réfléchir à la façon dont ils gèrent leur métier, ça me paraît assez naturel.
Bonsoir Mélanie.
Oui, bonsoir. Voilà, moi je voulais réagir sur vraiment les départs volontaires. Voilà, je suis directrice générale d'une collectivité, d'une mairie, hein, pour tout vous dire. Et en fait, moi j'ai peur, donc en tant que directrice générale, que ces plans de départ volontaires fassent partir vraiment les gens qui travaillent dans la fonction publique. Car il faut savoir qu'il y a des gens qui travaillent. Moi actuellement, je travaille plus de 60 heures par semaine. Je suis investie dans mon rôle de service public à un maximum. Et c'est vrai qu'ouvrir et mettre en place des plans de départ volontaires, on prend le risque quand même de voir partir les agents qui travaillent chez nous pour le secteur privé. C'est-à-dire qu'avec un salaire de 2000 euros par mois, à comparer à un salaire de 10 000 euros par mois dans le privé, eh ben ça, il peut y avoir comme conséquence que certains agents partent sur le privé.
Vous allez perdre les meilleurs, agents... c'est ça que vous dites en fait, Mélanie. Voilà, les meilleurs vont partir et les moins bons vont rester.
Voilà, les meilleurs vont partir et les moins bons, donc, on a du mal à gérer. Hein. C'est vrai, c'est une réalité, je pense, au sein de la fonction publique, en tout cas territoriale, hein, pour être vraiment sur le cas concret. Et moi, j'ai peur que certains agents qui travaillent et qui travaillent très très bien partent de nos collectivités. Et moi, je pense que d'autres solutions pourraient être mises en place, des solutions adaptées à chaque fonction publique, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques qu'on relève de la fonction publique territoriale ou d'État. Nous, on a un gros problème de clientélisme, comme disait Madame tout à l'heure, alors que l'État, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Le pouvoir et la politique n'est moins ancré dans le milieu administratif que pour la territoriale. Voilà. Et moi, je pense qu'il faudrait trouver des solutions un peu plus adaptées en fonction de la réalité du terrain.
Merci beaucoup, voilà. Mélanie. Céline Verzelletti, pour le coup, vous pourriez être d'accord avec Jean-Marc Daniel, parce que ce que dit Mélanie, c'est qu'il ne faut pas laisser partir ceux qui sont les meilleurs. Bah, pour ne pas les laisser partir, il faut les payer mieux, au final, non?
Non, mais alors, en plus, quand on voit un petit peu le plan de départ volontaire qui a été annoncé, c'est lié à des restructurations, quand même. Ça veut dire que c'est pas celui qui voudra, justement, éventuellement, changer de métier ou avoir un autre déroulé de carrière qui pourra être accompagné. Non, non. C'est celui qui verra son poste supprimé ou celui qui travaillera dans une mission qui sera privatisée, à qui on demandera soit d'aller travailler à 500 kilomètres de là où il travaillait et de là où il habite, donc. C'est à lui qu'on proposera éventuellement de l'accompagner vers la sortie, on va dire. Donc, ce sera pas juste pour ceux qui voudraient faire autre chose. Donc, je pense que moi, après, ce que je pense quand même, c'est, et je le redis, je suis un petit peu insistante là-dessus, mais moi, je salue d'ailleurs tous les fonctionnaires ou les agents de la fonction publique qui travaillent merveilleusement bien et qui le font avec vraiment une grande volonté, avec peu de moyens, parce que je pense que voilà, c'est, on a vraiment un grand besoin ici et d'ailleurs comme ailleurs de services publics et on devrait plus les développer et mieux les développer. Je pense que là, l'enjeu, il est là et malheureusement, c'est pas ce vers quoi on va, mais sincèrement, moi, je pense qu'on est vraiment toutes et tous méritants dans la fonction publique parce que justement, on n'est pas très reconnus et c'est un petit peu dommageable, notamment pour toute la population d'ailleurs.
Alors, une remarque, tiens, celle de Véronique Jean-Marc Daniel qui va un peu dans le sens de ce que vous disiez. Fonctionnaire, je souhaiterais quitter la fonction publique pour créer mon entreprise, mais comme tous les fonctionnaires, je n'ai pas droit au chômage. Les mesures annoncées par le gouvernement me réjouissent donc, car la prime va constituer pour moi une indemnisation considérable. Alors elle dit considérable, Véronique, je ne sais pas si considérable est le mot qui convient.
Je crois qu'il y a, alors on est au début, on ne sait pas très bien quelles sont les modalités pratiques, mais derrière cette idée, il y a l'idée effectivement qu'on n'a pas vocation à rester toute sa vie dans le même métier et donc il faut qu'il y ait une forme d'oxygénation, une forme de dans la vie qui est une sorte de et les fonctionnaires, il y en a déjà qui partent. Alors évidemment, c'est plutôt les plus hauts fonctionnaires, mais une promotion de l'ENA, vous la prenez 15 ans après et il en reste plus beaucoup dans la fonction publique.
Céline, mais je pense que dans les services publics, on fait pas toujours le. Enfin, même dans des métiers, il y a vraiment plusieurs choses à faire. Enfin, voilà, je sais pas qu'est-ce que vous entendez comme fonction quand vous dites on peut avoir envie de faire autre chose. Bien évidemment, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une évolution dans sa carrière et un déroulé de carrière, ce qui existe d'ailleurs déjà dans la fonction publique. Et normalement, à moins qu'il y ait un problème, d'ailleurs, ça peut arriver de discrimination ou autre, on doit pas rester au même niveau et on doit pouvoir justement changer de poste, être formé tout le long de sa carrière, ce qui n'est pas évident aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il y a un problème d'effectif, donc du coup on ne peut pas forcément suivre les différentes formations, mais normalement si on était dans un monde un peu plus idéal qu'aujourd'hui, en tout cas avec différents moyens, on pourrait justement se former tout le long de sa vie professionnelle et éventuellement en effet, comme vous le dites, avoir une évolution, et je pense que c'est intéressant pour tout le monde, ça c'est très clair. Personne ne veut rester exactement, précisément, sur le même poste pendant 30 ou 40 ans, on est bien d'accord.
Des consultations, vous l'avez dit, Céline Verzelletti, qui ne font que commencer un débat qui ne fait lui-même que commencer, sur lequel on aura largement l'occasion de revenir. Vous avez entendu les bips comme moi.